Bonjour à tous. Quelle mémoire de la guerre à la veille des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Dialogue entre un historien, Bruno Cabanne, qui vient de diriger une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours, au Seuil. Un ouvrage somme, synthèse et pluridisciplinaire. Il rencontrera dans la deuxième partie de l'émission le romancier David Diop, auteur de Frères d'âme ou le parcours de deux tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre, dans les tranchées. Ils dialogueront ensemble et tenteront de nous expliquer les particularités de cette guerre sur le terrain militaire, stratégique et culturel. Mais d'abord, image, la fin de la neutralité avec le photographe franco-suisse Mathias Brugmann, actuellement exposé à Lausanne au musée de l'Elysée et par la galerie Polaris à Paris Photo au Grand Palais jusqu'au 11 novembre. Un acte d'une violence indicible, c'est le livre de ces photos syriennes accompagné de textes mis en page comme toujours avec soin par les éditions Xavier Barral.
La grande table. Olivia Jesbert.
Après l'Irak, l'Égypte, Haïti, la Libye, il a choisi de s'arrêter en Syrie pour raconter un conflit qui dure depuis plus de 7 ans. Mathias Brugmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement exposé à Paris Photo, la foire française de la photographie d'art. Est-ce que c'est un lieu pour vous, Paris Photo, où on confronte son regard à celui des autres ?
Bien sûr, c'est le lieu de l'explosion du médium, d'un médium multiple, autant dans les œuvres que dans sa pratique. C'est assez incroyable comme endroit.
Et ça fourmille de monde et donc d'images aussi quand on est un photographe et qu'on se rend là-bas, un photographe d'aujourd'hui. On est aussi confronté aux clichés, aux images de ses pères. Hein, aux côtés de votre génération, on voit exposer là-bas des clichés des grands maîtres du genre, de William Klein à Salgado, de Willy Ronis à Meyerowitz. Est-ce que de manière consciente ou pas, votre travail à vous, Mathias Brugmann, s'inscrit dans une histoire de la photo ? Et si oui, laquelle ?
Je pense pas qu'il s'inscrive dans une histoire, dans une histoire de la photo. J'ai pas cette prétention-là. Il s'en nourrit, bien évidemment. Il se nourrit de l'histoire de l'art, parce qu'une image est un langage, et ce langage a une histoire.
Vous allez vous arrêter là.
Oui.
Vous n'allez pas nous raconter cette histoire tout de suite. Ce qui est intéressant là-bas à Paris Photo, c'est qu'on voit la diversité des univers qui sont présentés. Alors on se demande un peu si c'est la même histoire, en fait, tout ça, ou si c'est une histoire plurielle, cette histoire de la photographie d'art. Est-ce que ce sont des histoires qui nous sont présentées là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de chapelles dans le milieu, Mathias Brugmann ? Si on se balade à Paris Photo, je vous donne un exemple, il y a notamment ce secteur Curiosa qui montre des photos de nus, des photos érotiques, de corps fantasmés des femmes habituellement par les hommes. Et ici, ce sont des photographes femmes qui les ont prises. Il y a aussi des photos de mode. C'est des genres qui peuvent paraître mineurs pour un photographe de guerre comme le vôtre ou au contraire, ce sont des genres qui peuvent dialoguer.
Je pense pas qu'il y ait de genre mineur. Dans l'histoire du médium, il y a un très très grand photographe qui les transcende, qui s'appelle Edward Steichen. Et Steichen invente la photographie d'art d'une certaine manière en cherchant à inscrire le médium comme œuvre d'art au début du siècle, et va être également un des premiers à photographier la guerre, la Première Guerre mondiale.
Le statut de l'image, c'est aussi ce que vous interrogez dans votre livre et série de photographies réalisées en Syrie qu'on retrouve dans cet ouvrage, ce beau livre chez Xavier Barral, Un acte d'une violence indicible, puisque vous confrontez, mettez en parallèle, mélangez, je ne sais pas comment vous préfériez qu'on dise, vos images avec des photographies amateurs, des photographies vernaculaires. Il n'y a pas pour vous de choc des images, de dichotomie. C'est une dialectique, un dialogue qui se crée entre ces deux genres de photographie.
Je pense qu'il n'y a pas, déjà il n'y a pas de dichotomie entre l'image, le photojournalisme et la photographie d'art. Il y a une dialectique art-document, mais il n'y a pas de dichotomie art-document. Pour ce qui est de la photographie...
Juste là-dessus, Dialectique, oui, qui explique que on peut retrouver vos photos autant dans des magazines, dans la presse, que dans un musée.
Absolument. L'idée étant de demander au lecteur ou dans le cas d'une exposition aux visiteurs, de se positionner à l'intérieur d'une dialectique et pour lui faire comprendre qu'il s'agit d'une dialectique et qu'il ne s'agit pas d'une dichotomie. C'est-à-dire de comprendre qu'on est en face de nuances de gris et pas dans des pas dans des clivages, pas dans des absolus. En ce qui concerne la photographie vernaculaire, j'ai eu la chance il y a une dizaine d'années maintenant de participer à l'élaboration d'une exposition qui s'appelait Tous photographes pour le musée d'Élysée, qui a été une des, ou si ce n'est la première, à faire entrer la photographie vernaculaire numérique dans le musée. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y a des images, s'il y a des images vernaculaires qui ne peuvent pas être différenciées d'images instruites, entre guillemets, enfin d'images d'art, est-ce que leur statut est différent? À mon sens, il ne l'est pas réellement. Mais c'est une question, je pense que c'est encore une question ouverte de la photographie.
Pourquoi vous dites qu'il ne l'est pas, à votre sens?
À partir du moment où vous faites la différence, qu'est-ce qui reste?
Mais c'est une forme d'humilité ou c'est vraiment un constat porté par votre regard, par vos yeux?
C'est un constat qui peut être porté par vos yeux. Si je mélange des images, encore une fois, une image vernaculaire à une des miennes, et que vous ne voyez pas la différence, est-ce que c'est moi qui fais le constat que l'image est la même, enfin qu'il n'y a pas de différence de statut, ou est-ce que c'est vous? Et qu'est-ce que ça dit sur la nature, d'une part, de mes images, de l'autre, sur la nature de l'œuvre d'art?
Si je regarde, par exemple, dans votre téléphone portable, à l'instant, quelles seraient les dernières images que vous avez prises?
J'ai une utilisation. En fait, je photographie très très peu en dehors de mon travail, et donc y compris au téléphone portable. Donc ça sera probablement une quelconque correspondance probablement étatique pour me rappeler que j'ai besoin de passer dans un bureau pour renouveler quelque chose à un moment ou à un autre. Il faudrait que je regarde, mais ça doit être de cet ordre-là.
Au musée de l'Élysée et à Paris Photo, Mathias Brugmann, ce sont donc vos photos syriennes qui sont exposées. Vous êtes passé par Damas, Idlib, Rabia, Kouneitra, mais aussi par l'Irak, Shirkat et Tikrit, entre autres. Pour cette série, vous avez choisi donc de mélanger, de mettre en parallèle vos photos avec quelques images prises par les téléphones portables des miliciens, des combattants. D'ailleurs, vous dites comment? Miliciens, combattants, rebelles?
Combattants, je pense. C'est des combattants, c'est pas des... Dans le cas de la majorité des images, ce sont des combattants irakiens. Il y en a une qui vient du téléphone d'un commandant syrien. Pardon. Et ce combattant a été d'abord rebelle, puis allié à Jabhat al-Nusra, à Al-Qaïda. Puis sa tribu a été massacrée par l'État islamique et il a été se battre aux côtés du régime.
Vous leur avez demandé, en fait, tout simplement, de vous donner certaines de leurs photos et vous les présentez aujourd'hui en parallèle de votre travail à vous. On peut peut-être commencer par raconter une image, et notamment celle de ce combattant, donc, qui marche sur le corps d'un... Alors, je ne sais pas de qui exactement. Racontez-nous peut-être. Alors,
c'est l'homme dont je vous parlais tout à l'heure. Cet homme a été un rebelle syrien. Dans la région de Deir ez-Zor, qui est aujourd'hui le dernier bastion de l'État islamique. Sa tribu a pris le contrôle de puits de pétrole, et donc ils ont eu des moyens assez importants. Ils étaient alliés à Jabhat al-Nusra. Au moment de la scission entre Jabhat al-Nusra et l'EI, ils ont choisi de s'allier à l'EI. Puis, assez rapidement, ils ont trouvé que l'EI ne leur convenait pas. Alors ils se sont rebellés, l'EI a fait un exemple, on ne sait pas combien de morts, c'est des centaines de morts, avec une vidéo qui était destinée à un public oriental. donc une vidéo extraordinairement brutale, pour dire aux tribus sunnites ce qui se passerait s'ils se rebellaient. Un certain nombre de ces hommes ont ensuite décidé, pour se venger, d'aller combattre du côté de l'État syrien. Ils sont engagés dans ce qu'on appelle les forces de défense nationale, qui sont ce qu'on appelle communément les Chabira. Et ils se sont vengés. Et cette image-là, donc, qui m'a été donnée par cet homme, le montre en train de piétiner des cadavres décapités. Plus tard, ils ont pris les têtes, ils les ont accrochées à leur jeep et ils ont traversé la ville de Deir ez-Zor en triomphe pour montrer qu'ils avaient tué des combattants de l'EI.
Un acte d'une violence indicible, Mathias Brugmann, c'est le titre qui a été donné à ce livre de photographies, les vôtres, publié donc chez Xavier Barral. Est-ce que là, sur une image comme celle-ci que vous venez de nous raconter, ce qui n'est pas pareil que commenter, vous diriez que l'image remplace les mots, des mots que vous ne sauriez pas vous-même mettre sur cette situation?
Je sais pas si l'image peut jamais remplacer des mots. Je pense qu'ils sont complémentaires. Je pense pas que l'histoire des Shaitat soit compréhensible par une image ou par une vidéo, fût-elle barbare et même si elle dure 20 minutes.
Non. Alors qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot indicible ?
Je pense que le mélange des deux, des textes et des images, peut mener le lecteur à la compréhension de quelque chose que je ne peux pas dire, que je ne peux pas expliquer, et que je ne suis pas certain de pouvoir totalement comprendre. Je ne suis pas certain, en tant qu'occidental, et même en ayant passé pas mal de temps en Syrie, de pouvoir réellement comprendre ce qu'a été cette guerre et ce qu'est de vivre en Syrie ou d'avoir vécu en Syrie. J'essaie de faire de mon mieux, mais je suis pas certain de le pouvoir.
Un univers indicible, disait Camus, c'est un lieu où règne la contradiction et surtout l'impuissance. Comment rendre une réalité vécue plutôt que de la résoudre? Je vous propose d'écouter les mots de l'essayiste américaine Susan Sontag, auteure de « Sur la photographie », un essai paru en 1977. Elle y parle du rôle de la photo, témoin certes, et au-delà. Elle était à l'époque l'invitée de Bernard Pivot.
Vous racontez cette histoire à 12 ans, donc vous avez reçu ce choc devant des photos. Est-ce que vous considérez donc que la première vertu de la photographie, c'est un rôle de témoin, c'est le témoignage?
Je pense que c'est même, ça va plus loin que ça, que nous avons maintenant notre sens de la réalité via la photo, qu'on mesure la réalité par des critères qui viennent de la photographie. Qu'il y a un rapport entre image et réalité, dite réalité, qui est différent, qui a existé avant la photo. Que la photo a un statut de réalité maintenant.
Oui, mais attention, dans votre livre, vous dites, attention, la photo, elle atomise la réalité, c'est le terme que vous employez. Ouais. Elle emprisonne la réalité et elle privilégie certaines réalités selon le vœu du photographe.
Oui, c'est une interprétation de la réalité, mais c'est une interprétation, je crois, absolument centrale pour nous. Mais c'est pas simplement le témoignage, parce que si vous dites témoignage, ça a l'air de dire miroir. Mais c'est une interprétation, c'est toujours un cadrage d'une certaine réalité. Et il y a certaines choses qui sont plus photogéniques que d'autres, je crois.
Et pour vous, Mathias Brugmann, que fait la photo à la réalité?
La photo aide à structurer la réalité. C'est évident qu'elle n'est qu'une elle ne peut être qu'une représentation parcellaire de la réalité, mais la photo comme toute œuvre, on va dire, ne peut être que structurante de réalité, ne doit être que structurante de réalité.
Cette réalité dont vous rendez compte à travers ces photos, Mathias Brugmann, on a évoqué cette photo amateur de ce combattant marchant sur le cadavre d'un homme sans tête. La photo qui suit, elle est de vous et on y voit une petite fille qui tient une affichette, une petite pancarte où elle souhaite à son père un bon anniversaire. Il est écrit « Happy birthday, Daddy ». Ça, c'est aussi la réalité d'un quotidien et la réalité humaine. C'est-à-dire que l'homme peut être à la fois un combattant sur un théâtre de guerre, Et quand il rentre chez lui, il peut être à la fois un père, un frère, un mari.
Bien évidemment, mais cette photographie n'est pas de moi.
Ah pardon, alors c'est moi qui me suis trompée.
Mais heureusement que vous êtes trompée. vous voyez que c'est difficile de déterminer
l'œuvre. Parce
que
vous ne mettez pas les légendes directement en dessous. Voilà, vous nous laissez nous débrouiller. Mon Dieu.
C'est une photographie. C'est la fille d'un autre combattant.
Parce que les photos ne sont pas légendaires, il faut aussi expliquer.
Les photos ne sont pas directement légendaires, elles le sont à la fin du livre.
Elle est bien cette photo.
Elle est superbe.
À part ça, si on raconte à travers, on feuillette ce livre de ces photos, on peut voir aussi une incroyable diversité des situations que vous racontez. Alors à travers vos photos ou celles d'amateurs que vous avez récupérées, vous montrez tantôt des lieux plutôt clos comme des bureaux, des hôpitaux, des lieux de fête aussi, des espaces ouverts, souvent en ruine puisqu'on parle d'un pays, la Syrie, dévastées, des photos de tentes qui peuvent être mises à disposition des ONG ou du HCR. Il y a des photos qui sont très dures, d'autres qui racontent des situations plus quotidiennes, presque plus douces. Je pense à cette photo, elle est de vous ?
Elle est de moi, oui.
De cette nappe de fumée derrière laquelle émerge juste un turban. Ça, c'est une photo qui a été prise où et quand ?
Alors, c'est une photo qui est prise sur un tournage. Ce tournage a lieu dans un faubourg de Damas qui s'appelle Daraya. Daraya est un faubourg martyr de Damas qui a été assiégé, qui a été affamé, qui a été bombardé au napalm et qui a fini par se rendre. C'est un faubourg où les manifestations étaient particulièrement pacifiques, où un opposant célèbre, au début des manifestations, donnait des roses aux forces de l'ordre. Après la reddition, le régime va aider à tourner un film. Ce film raconte l'histoire d'un photographe qui, en collusion avec des islamistes, va faire une attaque chimique pour la photographier et gagner un prix. On est donc dans quelque chose où, après avoir tué sa population, le régime va tuer les morts, va retirer aux morts le sens de leur propre mort.
Et là, vous citez presque, en appui de ce que vous venez d'évoquer et de ces photographies, les mots de Primo Levi dans la préface des naufragés et les rescapés, qui se réfère lui-même à Simon Wiesenthal à propos des SS qui disaient aux prisonniers que ces derniers ne pourraient jamais témoigner de ce qui s'était passé puisqu'ils seraient morts et que s'ils restaient vivants, de toute façon, personne ne les croirait. Vous avez vu l'indicible, mais vous avez aussi vu l'incroyable.
J'ai vu l'obscène, peut-être. J'ai vu l'obscène. Et j'ai peur aujourd'hui de voir cette obscénité continuer. J'ai peur que les SS de Wiesenthal aient cette fois gagné et que toute la Syrie se retrouve dans une impunité face à ce qui s'est passé. Que les dizaines de milliers ou les centaines de millions, on ne sait pas combien, de détenus qui ont été torturés à mort dans les geôles du régime, que leur famille ne sache jamais ce qui s'est passé, parce qu'il n'y aura pas de pensée.
Quelle est la place du photographe dans la guerre ? Est-ce qu'il faut à tout prix garder une certaine neutralité ou une position nuancée ? Ou est-ce que le photographe ne peut être qu'engagé ?
Je pense que l'art ne peut et ne doit être qu'engagé. Ceci dit, à l'intérieur d'un conflit, je pense, et je dis ça en particulier en tant que photographe occidental, quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, je pense qu'il faut être extrêmement humble sur son engagement et il faut écouter avant de chercher à revendiquer, avant de chercher à dire.
Votre engagement, c'est là que vous le situez ?
Dans l'écoute, oui, plus que dans le doute et dans la remise en cause, plus que dans la revendication.
La guerre aujourd'hui est banalisée, notre seuil de tolérance a changé. Des images de conflits lointains à longueur de journée sur nos télés, dans nos journaux, c'est aussi ce que raconte l'historien Bruno Cabanne que nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission. Comment, dans ce flux d'images, créer des clichés qui sortiront de ce flux, qui sortiront aussi du lot, des clichés qui interpellent vraiment et réduisent cette distance entre l'ici et l'ailleurs, entre le « nous » et le « eux ». Je vous propose d'écouter d'abord « eux » et « nous », le photographe à ce sujet de guerre, Patrick Chauvel.
Une photo, c'est un 125e de seconde, mais il y a avant, il y a pendant et après. Et on est avec des gens, et moi ce que j'essaye de raconter, c'est leur histoire. Et je suis un petit peu agacé par une certaine presse qui se met plutôt en avant, et on n'entend pas trop parler de l'histoire des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens. Hein, ils font des plateaux, enfin bon, on ne va pas parler de ça trop longtemps. Mais j'aimerais bien qu'on revienne à un temps plus long, bannir le mot « scoop ». J'entends tellement souvent des gens dire « j'étais le premier à Mossoul ». Mais on s'en fout, ben, je ne comprends pas. Ce n'est pas une course. À la limite, c'est le dernier qui est le meilleur. On est là pour raconter l'histoire de gens qui se confient à nous, que ce soit en radio, en télévision ou en photo. Il faut passer le temps, trouver la bonne distance, les respecter et les écouter. Hein? Et parce que les gens me disent « mais t'étais avec eux ». Mais c'est pas eux, c'est nous. Ce sont les mêmes gens que nous.
Alors vous dites, vous, Mathias Bruckmann, être ni journaliste ni artiste, vous dites surtout vouloir provoquer non pas une émotion à travers vos photos, mais une compréhension viscérale de la violence intangible qui sous-tend tout conflit. Il y a cette envie aussi d'essayer de réduire cette distance.
Il y a de ça, je pense, comme le disait Patrick, que l'autrification, cette idée qu'il y a eux et nous, est extrêmement dangereuse. En partie, y compris quand on parle de criminels de guerre. C'est-à-dire cette idée de penser que nous ne serions pas dans des conditions similaires criminels de guerre. Et quelque chose, cette certitude est quelque chose de très dangereux. Pour le reste, je pense qu'il est, et pour reprendre un tout petit peu la question du flux d'images, je pense que Patrick a également raison sur la nécessité de ralentir. Je pense que le doute permet de ralentir. Un doute sain, pas le doute de la propagande russe, mais une demande d'attention supérieure aux images et quelque chose qui permet de dire des choses.
Une question que vous avez dû vous poser plus que souvent, c'est celle des images où la violence est à l'état brut, presque cru, pour le regard de celui qui les voit. Au point de peut-être faire baisser les yeux, alors qu'on imagine que pour le photographe, l'objectif est au contraire de nous les faire ouvrir grand sur une réalité, celle qu'il souhaite raconter. Jusqu'où peut-on montrer la violence? Ça, c'est un vieux débat. Je pense au collectif de photographes syriens Abou Nadara, qui posait la question de la dignité des personnes photographiées en temps de guerre. Quel est, vous, votre curseur, votre règle à vous?
Ma règle à moi est d'arrêter de photographier à partir du moment où la violence est faite pour mon objectif. Ça c'est mon curseur. Dans le cas du consentement des gens photographiés, il y a toujours une zone de flou. On essaie de faire au mieux. C'est la meilleure. Je pense que c'est une question. C'est une question de. On est dans quelque chose d'extrêmement intime et pour la personne photographiée et également pour le photographe. Et ça varie de personne en personne. On fait au mieux. On essaie de commencer par ne pas faire de mal. Après, c'est impossible. Parfois, impossible de savoir.
Vous êtes, vous, un Européen, Mathias Bruckmann, vous faites ces photos aussi pour un public d'occidentaux, pour qu'ils comprennent et voient la situation qui se passe là-bas en Syrie, mais ça pouvait être, on l'évoquait, sur d'autres terrains sur lesquels vous vous êtes rendu, que ce soit l'Irak, que c'est pu être Haïti aussi. Ces photos-là, par exemple, est-ce que vous les faites aussi en pensant que vous pourriez ou aimeriez les présenter à un regard syrien ?
La question devient une question de code commun. Dans quelle mesure est-ce que moi je suis capable de construire une image dont la lecture soit possible, on va dire, par quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes culturels que moi. Je suis pas certain d'en être capable. Je pense pas à l'universalité du langage de l'image, mais bien évidemment, j'ai montré ces images à des amis syriens. Il y a eu des visiteurs syriens à l'exposition du musée de l'Élysée qui ont parfois des lectures qui sont différentes de la mienne, qui ont une compréhension beaucoup plus fine de ce que j'ai photographié que je n'aurais jamais.
Mais c'est une question de lecture, et c'est une pratique, une gymnastique de lecture aussi, ces situations. D'ailleurs, dans cet ouvrage, Un acte d'une violence indicible, vous avez aussi sollicité des plumes d'auteurs, de journalistes syriens ou étrangers, et vous leur avez demandé à eux de donner leur version presque de cette situation, sans vous leur présenter vos photos avant, pour qu'ils aient leur propre lecture de tout cela.
Oui, ce qui m'intéressait était de comprendre comment eux lisent ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à leur famille, ce qui est arrivé à leurs amis, ce qui est arrivé à leur maison. Je serais bien incapable, je pense, de poser les questions justes dans des cas comme ça. La seule chose que je puisse faire, c'est essayer de poser une question générale, qui est comment est-ce que tu expliquerais cette situation, pour leur permettre de poser eux-mêmes les questions.
Ça fait 7 ans, Mathias Brugmann, que ce conflit a débuté en Syrie. Vous y retournerez encore et encore?
Je pense pas que je pourrais y retourner après ce livre.
Merci beaucoup d'avoir été autour de cette grande table. Un acte d'une violence indicible, ce sont vos photos qui sont publiées aujourd'hui dans ce livre édité par Xavier Barral. Elles sont actuellement exposées aussi au musée de l'Élysée à Lausanne, et quelques-uns de vos clichés sont à voir dans le cadre de Paris Photo au Grand Palais jusqu'au 11 novembre, où vous êtes aussi donc représentés. Merci mille fois à vous par la Galerie Polaris, je le précise. Merci.
Merci à vous.